Il est 6h sur Europe 1.
Un nouveau salarié qui est arrivé récemment, j'ai découvert qu'il était à Lille. Ça fait 3 mois qu'on a commencé le recrutement avec cette personne et jamais on s'est posé la question de où il était physiquement. En fait.
La crise sanitaire et la généralisation du télétravail chamboulent les règles de l'embauche. Désormais, la donnée géographique n'est plus un critère pour recruter. La cour d'appel d'Orléans doit se prononcer tout à l'heure sur un dossier d'atteinte sexuelle entre un homme de 27 ans et une mineure de 12 ans. La qualification de viol n'a pas été retenue par la justice. Alors qu'Alexei Navalny reçoit le soutien de la communauté internationale, qu'en est-il dans son pays, en Russie? L'opposant au pouvoir n'y est pas forcément très populaire. Et puis, un Infea de Monet, bientôt vendu aux enchères à New York, prix estimé à 40 millions de dollars.
Les sports à suivre, et puis mon invité inattendu nous fera voyager à Cuba ce matin. Cuba qui tourne la page des Castro. Lui est écrivain, il a trouvé l'inspiration à La Havane, il nous racontera à 6h15. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et si le télétravail devenait la norme dans les entreprises après la crise sanitaire? Depuis plus d'un an maintenant, travailler depuis chez soi est devenu une pratique courante et cela ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises et les salariés en matière d'embauche. Et Maude Descamps, les recruteurs n'ont plus besoin de se limiter à leur bassin géographique habituel.
Oui, le phénomène est relativement récent, mais je vais vous donner un exemple concret. Arnold Zéphir est PDG d'une entreprise de 50 salariés dans le numérique à Paris. Depuis quelques mois, il a complètement changé ses habitudes de recrutement.
On a un nouveau salarié qui est arrivé récemment. J'ai découvert qu'il était à Lille. Ça fait 3 mois qu'on a commencé le recrutement avec cette personne et jamais on s'est posé la question de où il était physiquement, en fait. Je me souviens qu'il y a 2 ans environ, on avait eu une phase de recrutement et on avait refusé un candidat qui était à Carcassonne. Il était bon, c'était quelqu'un qui collait très bien au poste, mais on s'est dit « Ah non, il pourrait venir qu'une journée par semaine, c'est embêtant et tout ». Maintenant, on se pose plus la question.
Voilà, et pour ce PDG, recruter loin de son siège, ça lui permet surtout d'aller chercher de nouvelles compétences.
On arrive à recruter des profils un peu plus expérimentés. Ouais, on l'a bien vu, le phénomène que des ingénieurs ou des commerciaux très expérimentés, on va dire de 45-50 ans, qui sont partis en province, bah maintenant, on peut se permettre de les embaucher, alors que, effectivement, c'est des gens qu'on trouvait à Paris qu'à des prix... ils existent toujours, mais... ceux qui étaient restés sur Paris étaient à des prix déraisonnables pour une société comme la nôtre.
Et ça marche aussi pour des entreprises de province qui vont pouvoir recruter des profils bien spécifiques. Une entreprise dans un cadre industriel dans les Hauts-de-France, par exemple, va pouvoir recruter un salarié qui habite dans le Morbihan ou sur la côte basque sans devoir le convaincre de déménager.
Voilà, c'est l'enquête de la rédaction ce matin. Enquête signée Maude Descamps pour Europe 1 et on en reparlera tout à l'heure à 6h40 avec le sociologue Jean-François Amadieu.
Et toujours à propos de l'épidémie, les hospitalisations continuent d'augmenter. Le nombre de patients en réanimation est repassé au-dessus des 5 900.
C'est une affaire qui apparaît à contre-courant alors que le seuil de non-consentement sexuel des mineurs de moins de 15 ans vient d'être adopté par les parlementaires.
À Orléans, la cour d'appel doit rendre sa décision aujourd'hui dans un dossier d'atteinte sexuelle entre un homme de 27 ans et une adolescente de 12 ans. En novembre dernier, lui avait été condamné à 2 ans et demi de prison en première instance et Marion Dubreuil, la justice n'a pas retenu la contrainte ni le viol.
Oui, depuis le début, la petite fille parle d'une relation consentie. « Je l'aimais », ce sont ses mots, ceux d'une enfant de 12 ans. Elle s'est enfuie plusieurs fois avec cet homme de 27 ans, un proche de la famille qui connaissait son âge. Ses parents avaient déposé plainte au départ et puis la petite fille est devenue mère et la famille a retiré sa plainte. Marie-Paul Carré-Lebas de l'association France Victimes a été désignée administratrice ad hoc par la justice pour représenter les intérêts de la victime malgré elle.
Il paraît difficile de concevoir qu'une enfant de 12 ans ait pu volontairement consentir à une relation avec un homme de 27 ans jusqu'à en avoir un enfant. La différence d'âge aurait dû laisser penser qu'il y a eu ce qu'on appelle en droit la contrainte. Peut-être qu'une autre qualification aurait été souhaitable pour lui faire prendre conscience que cette relation ne pouvait pas être souhaitée de sa part.
Alors même que l'acte de pénétration était établi entre ce majeur de 27 ans et cette mineure de 12 ans, ce dossier n'a pas fait l'objet d'une instruction. S'il avait été poursuivi pour viol, le prévenu aurait été jugé aux assises. Il aurait encouru jusqu'à 20 ans de prison, contre 7 ans seulement, pour le délit d'atteinte sexuelle.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Une enquête ouverte à Toulouse après qu'une fête a réuni une 50aine de personnes dans les locaux de l'internat de médecine de l'hôpital de Rangueil au sud de la ville. Des sanctions seront prises contre les organisateurs et les participants, a fait savoir le CHU. Une enquête administrative interne a été ouverte pour déterminer leur identité.
Alexeï Navalny, l'opposant numéro un au pouvoir russe, a finalement été transféré dans une unité médicale alors que plusieurs voix s'élevaient au sein de l'Union européenne, mais aussi aux États-Unis pour s'assurer de son bon état de santé.
Mais Navalny a entamé une grève de la faim il y a 3 semaines. Et si l'opposant au Kremlin apparaît comme une icône en Occident, qu'en est-il en Russie? C'est ce qu'a cherché à comprendre Pierre Herbulot avec notre correspondance à Moscou.
Un homme enfermé pour avoir osé parler, un martyr. Cette image d'Alexeï Navalny, les Russes ne l'ont pas. L'opposant ne rassemble officiellement que quelques centaines de milliers de soutiens, une goutte d'eau face aux 145 millions d'habitants que compte le pays de Poutine. Indifférence ou mépris, voilà ce qu'inspire le plus souvent le nom Navalny dans les rues de Moscou.
Je ne veux pas penser à lui, alors je dirais que mon opinion est neutre, voire plutôt négative.
J'ai une opinion très négative de lui. Je suis à la retraite, j'ai le temps de regarder. Je pense que toutes ces enquêtes menées sur nos dirigeants, c'est n'importe quoi. Navalny s'aime trop, il est narcissique.
La propagande gouvernementale est bien entendu passée par là. La crainte aussi de s'opposer ouvertement au régime, c'est ce que Charlotte, étudiante française en Russie, vient de découvrir en discutant autour d'elle de la manifestation prévue demain.
Ça crée un peu le malaise, je veux dire, en général, surtout quand vous êtes étranger et vous posez la question. J'aurais vraiment du mal à vous dire si beaucoup de gens vont participer à ces manifestations.
Si la figure Navalny ne fait pas l'unanimité, ses idées en revanche progressent dans l'opinion, précise un spécialiste, notamment la lutte contre l'autoritarisme et la corruption.
Pierre Herbulot avec notre correspondante à Moscou, Lena Politkovskaya. Décollage imminent pour Thomas Pesquet. Il s'envolera jeudi pour la Station Spatiale Internationale, sa deuxième mission à bord de l'ISS. Alors on pourrait croire que le futur commandant est maintenant un habitué et qu'il est plus serein que la toute première fois en 2016. Eh bien pas forcément. Au micro de l'Or d'Autriche, Thomas Pesquet confie son appréhension.
La première fois, on part à l'aventure. On sait que ça va être difficile parce qu'on vous l'a dit, parce qu'on l'imagine, parce qu'on est capable de le comprendre, mais on ne sait pas exactement à quel point, on ne sait pas exactement quand ça va être difficile. La deuxième fois, on sait exactement à quoi on s'expose. Hein. Et puis, la situation sur Terre, enfin, la pandémie de Covid n'a pas rendu l'entraînement facile, a fait que on s'est retrouvé très isolé nous-mêmes pendant l'entraînement. Hein. Donc, on se prépare à quitter nos proches, à quitter la Terre pour 6 mois. Et malheureusement, ça fait déjà presque un an qu'on est quasiment en isolation, donc ça, c'est pas génial non plus. Mais bon, évidemment, quand on va dans l'espace, on peut pas se plaindre.
Voilà, Thomas Pesquet, le départ jeudi, décollage jeudi aux alentours de midi. On suivra ça, bien sûr. Et puis, un événement sur le marché de l'art avec la vente aux enchères d'un des célèbres nymphéas de Claude Monet.
Oui, ce sera le 12 mai prochain chez Sotheby's à New York, le bassin des nymphéas, estimé à 40 millions de dollars. Diane Chenouda.
Ce bassin aux nymphéas est un des derniers tableaux de la série mythique peinte par Monet à la fin de sa vie à Giverny. Une grande toile d'1 mètre sur 2 mètres, elle appartient à un collectionneur privé qui l'avait acheté 16 millions de dollars en 2004. Depuis, c'est le 4e nymphéa de cette qualité qui passe sur le marché de l'art. Une toile donc très recherchée par les collectionneurs, comme le confirme Thomas Bompard, expert en art impressionniste et moderne chez Sotheby's.
Il est très beau, il réunit toutes les qualités. Les nymphéas, c'est-à-dire les fleurs mêmes, ont des couleurs très vives. Il y a des beaux rouges, il y a des mauves, il y a des roses. On voit également que toute la partie centrale du tableau est occupée par le reflet du ciel. Donc il y a à peu près toute la palette possible. Les collectionneurs vont également rechercher un tableau lumineux. La vivacité des couleurs, l'énergie de la composition fait que c'est un tableau qui n'a pas pris une seule ride. C'est vraiment le Graal pour un collectionneur.
Un chef-d'œuvre qui peut aussi intéresser les amateurs d'art contemporain, car ces nymphéas de Monet, ce sont les premiers tableaux abstraits.
Voilà, je vous le disais, toile estimée à 40 millions de dollars, mais on est loin du dernier record pour un nymphéa de Monet. 85 millions de dollars lors de la vente Rockefeller, c'était il y a 3 ans.
6h09 sur Europe 1, c'était le journal de Sophie Echen.